Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, merci d'être à l'écoute de Radio Vatican. Dans cette édition, il sera tout d'abord question du télégramme de condoléances du pape François adressé aux nonces apostoliques en Turquie et en Syrie suite au tremblement de terre dans le sud de la Turquie et le nord de la Syrie qui, selon un bilan provisoire, a fait au moins 1600 morts. Nous reviendrons également sur le 40e voyage apostolique du pape en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud, un voyage qui a eu lieu du 31 janvier au 5 février. Des nouvelles de l'Église Famille de Dieu en Afrique, le conseil permanent de la CERAO est réuni jusqu'au 9 février à Conakry en Guinée, est réuni autour du thème « Défi du terrorisme pour l'évangélisation en Afrique de l'Ouest ». Dans l'actualité sociopolitique, nous serons notamment au Cameroun, où un homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belenga a été arrêté lundi, soupçonné d'être impliqué dans le meurtre du journaliste camerounais Martinez Gomez.
Radio Vatican, France et Afrique, Françoise Niamier.
C'est une profonde tristesse que le pape François, rentré dimanche de son voyage apostolique en Afrique, exprime pour la mort et les blessures de milliers de personnes dans le violent tremblement de terre qui a frappé la région de Karaman-Maras entre la Turquie et la Syrie, faisant au moins 1600 morts. Dans un télégramme adressé à Mgr Marek Soltis, nonce apostolique en Turquie, le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, assure que le pape François a été profondément attristé d'apprendre les énormes pertes en vie humaine causées par le tremblement de terre dans la région du sud-est de la Turquie et il envoie l'assurance de sa proximité spirituelle à toutes les personnes touchées, confiant ceux qui sont décédés à la misère code aimante du Tout-Puissant. Le Saint-Père envoie ses sincères condoléances à ceux qui pleurent leur perte. Dans un second télégramme, adressé quant à lui au même moment à Mgr Mario Zenari, nonce apostolique en Syrie, le pape se dit également profondément attristé par les importantes pertes en vie humaine causées par le tremblement de terre dans la région du nord-ouest de la Syrie. Il offre des prières sincères pour les âmes des défunts et pour ceux qui les pleurent. Le 40e voyage apostolique du pape s'est achevé dimanche à Juba, la capitale sud-soudanaise. Et dans l'avion qui le ramenait de Juba, François s'y est livré au traditionnel jeu de questions-réponses avec les journalistes du vol papal. 6 questions et 6 réponses pour revenir bien sûr sur son voyage en Afrique, mais également sur ses relations avec Benoît XVI et répondre aux critiques et pour apporter des précisions à ses récents propos sur la criminalisation des personnes homosexuelles. Jean-Charles Puzolu.
Oui, mais commençons, si vous le voulez bien, par les futurs voyages, car la question a été posée, à savoir si François avait encore la force de poursuivre et le pape de répondre qu'il y a au programme les JMJ de Lisbonne, une étape à Marseille le 23 septembre pour une rencontre des évêques de la Méditerranée, puis l'Inde et peut-être même la Mongolie. Donc, malgré un genou douloureux, mais qui progresse lentement, François ne raccrochera pas son bâton de pèlerin. Concernant maintenant les personnes homosexuelles, le souverain pontife répète ce qu'il a déjà dit en début de pontificat, à savoir... Qui suis-je pour juger? Les homosexuels sont des enfants de Dieu et la criminalisation de l'homosexualité est une injustice inadmissible. François est d'ailleurs soutenu par Justin Welby et Ian Greenshield sur ce dossier, les deux responsables de l'Église d'Angleterre et de l'Église d'Écosse qui étaient eux aussi dans le vol papal. Sur son prédécesseur, l'évêque de Rome remet les points sur les i avec la parution de livres critiques, soulevant une certaine polémique. J'ai pu parler de tout avec Benoît XVI, dit François, même au prix de changer d'avis. Je l'ai consulté sur certaines décisions que je devais prendre et il les a acceptées. Sa mort a été instrumentalisée, dénonce le pape, par des personnes qui voulaient apporter de l'eau à leur moulin, des personnes sans éthique agissant à des fins partisanes et non des gens d'église. Enfin, deux mots sur ces étapes africaines, juste pour dire que François dénonce une colonisation des sous-sols du continent, autrement dit des riches ressources naturelles de l'Afrique, au détriment des populations locales. Nous devons nous ôter de la tête que l'Afrique est à exploiter a-t-il encore déclaré.
Jean-Charles Puzolu. Présent aux côtés du pape François dans l'avion de retour, l'archevêque de Canterbury, primat de l'église anglicane, qui, avec le modérateur de l'église d'Écosse, ont accompagné le souverain pontife au Soudan du Sud. Monseigneur Welby, qui revient sur cette étape sud-soudanaise, fruit d'un écuménisme concret.
I think the trip comes with an effect at the local.
Je pense que ce voyage a un effet au niveau local, au Soudan du Sud, et un effet au niveau mondial. Le fait que ces trois chefs religieux soient allés ensemble pour la toute première fois, certainement depuis la réforme, avant laquelle nos deux églises n'existaient pas, est un signe d'espoir pour la paix et la réconciliation dans le monde. Si ceux qui ont passé 150 ans à s'entretuer et les 350 années suivantes à se condamner mutuellement peuvent maintenant se retrouver à rechercher ensemble la paix et la réconciliation, alors tout le monde peut le faire.
We need a change of heart.
Nous avons besoin d'un changement de cœur. Le mouvement de l'esprit dans l'Église, en particulier les nombreux mouvements au sein du mouvement charismatique, je dirais, et les mouvements entre les congrégations au niveau local, ont fait tomber beaucoup de barrières entre nous et nous ont permis de vivre l'écuménisme. Vous avez donc ici l'écuménisme en action.
Des propos recueillis par Andrea Latorioli à bord de l'avion papal. Deux pays étaient au programme de ce 40e voyage apostolique, le Soudan du Sud, aux prises avec une guerre civile qui a provoqué des déplacements énormes de population. François a multiplié les appels à la paix et à la réconciliation. Ces deux mots ont été également au cœur de la visite du Saint-Père en République démocratique du Congo. Cette première étape africaine du pape a été vécue comme une grande grâce, presque 38 ans après la visite du Saint-Pape Jean-Paul II. Monseigneur Carlos Ndaka, évêque auxiliaire et vicaire général de Kinshasa, est resté frappé par l'enthousiasme des Congolais et pas seulement des catholiques. La visite de François va renforcer la fraternité et peut permettre une réelle avancée vers la paix.
Moi, je pense que cette visite va réanimer notre foi catholique. Et même la foi de certains frères qui se sont éloignés de l'Église. J'ai entendu beaucoup de témoignages positifs. Je crois que ça va raviver la foi, surtout la foi des jeunes à tenir bon. Le pape est venu nous dire, nous demander de ne pas perdre espoir. Cette visite aussi va contribuer à renforcer nos liens de fraternité avec les autres frères qui ne sont pas de l'Église catholique. J'ai vu, par exemple, les témoignages très éloquents de nos frères les protestants qui ont mobilisé aussi leurs frères à accueillir dignement sa sainteté le pape. Si aujourd'hui on dit que l'Église catholique en République démocratique du Congo a près de la moitié de la population congolaise catholique, après la visite du pape, je peux même prendre le risque de dire que nous, il y a possibilité que nous puissions dépasser la moitié de la population, vu l'effervescence, vu les témoignages que nous avons reçus ça et là.
Paix et réconciliation ont été les maîtres mots de cette visite. Quelles traces, selon vous, peuvent-ils laisser ces mots après la visite du pape?
Le pape est venu comme envoyé de Jésus-Christ. Il nous a amené un message, comme Jésus lui-même passait par des villages, des chemins et annonçait la bonne nouvelle. Il a touché les points concrets de notre vivre ensemble ici. Vous savez que nous sommes en train de traverser 20 années de guerres, d'invasions, de pillages de nos biens, de ressources naturelles. Tout cela fait que pratiquement au Congo, il y a un peu comme ce sentiment de séparation entre frères, les uns qui posent des actes qui sont mal vus par les autres. Il y a vraiment cette nécessité de pouvoir marcher ensemble. Donc le pape a bien perçu les besoins de la réconciliation, les besoins de la paix, les besoins de l'unité, les besoins d'éviter la corruption, parce que c'est ça qui gangrène le développement du pays.
La rencontre avec les victimes des violences dans l'est de votre pays restera un temps fort, un temps marquant de l'étape congolaise de François.
Quand le Saint-Père s'adresse aux victimes, il s'adresse au monde entier. Il s'adresse et aux victimes et aux bourreaux. Et j'ai pleuré comme pas possible. J'ai versé les larmes quand j'entendais les témoignages. À un moment donné, j'avais la tentation de pouvoir me lever, de sortir, de ne plus suivre, parce que c'était émouvant et fort. Lui aussi, je le voyais souffrir en regardant ces pauvres gens, ces innocents qui sont torturés, malmenés, qui n'ont rien fait, qui ont vu leurs parents déchirés, déchiquetés. Quand le Saint-Père parle, il s'adresse en même temps à la communauté internationale, aux bourreaux qui sont soutenus d'une façon ou d'une autre par des gens qui viennent de partout. Nous espérons vraiment que la peine ressentie et exprimée par le Saint-Père et par nous tous qui avions suivi cette rencontre puisse toucher les cœurs des hommes, surtout les cœurs des bourreaux et ceux qui soutiennent matériellement ou financièrement ces bourreaux.
C'était Mgr Carlos Ndaka, évêque auxiliaire et vicaire général de Kinshasa en République démocratique du Congo, interrogé par Bernardo Suarte de la rédaction portugaise de Radio Vatican. La 10e conférence épiscopale réunie de l'Afrique de l'Ouest, CERAO, se tient du 2 au 9 février à Conakry, en Guinée. Les 30 évêques composant le conseil permanent de cette instance sous-régionale, venus des différents pays francophones, anglophones, lusophones de l'Afrique de l'Ouest, réfléchissent sur le thème « Défi du terrorisme pour l'évangélisation en Afrique de l'Ouest ». Pour Mgr Alexis Toibli-Yulo, président de la CERAO, le choix du thème de cette rencontre n'est pas fortuit. Il est né d'une expérience concrète, celle de l'Église en Afrique de l'Ouest confrontée par les réalités du terrorisme et aucun pays de la sous-région n'est à l'abri de ce fléau, a-t-il indiqué à l'ouverture de cette rencontre. Nous avons alors compris que l'Église en Afrique de l'Ouest est confrontée à un fléau qui pourrait constituer un véritable obstacle à sa vie et à sa mission, a déclaré l'évêque d'Abouville en Côte d'Ivoire. Au Bénin, c'est notre correspondant Guido Suyovo qui nous rend compte de la cérémonie de dédicace du tout nouveau livre de l'archevêque de Cotonou, Mgr Roger Ngbedji. La cérémonie a eu lieu récemment à l'École internationale de théologie et de la pastorale à Cotonou, au Bénin, devant des autorités politiques et religieuses.
Les églises d'Afrique face au défi du témoignage à l'ère de la nouvelle évangélisation. C'est le titre de l'ouvrage qu'ont eu l'honneur de présenter au public les pères Julien et Fouet Pénoukou, anciens recteurs du grand séminaire Mgr Louis Parizeau de Tianvedi et Mathieu Aïfan, professeur à Saint-Gall de Ouida. Tous deux ont permis aux participants de retenir en synthèse la quintessence du chef-d'œuvre du prélat qui met en relief la problématique du défi du témoignage chrétien. Mais c'est à Mgr Ngbedji lui-même qu'est revenu le plaisir d'exposer à l'assistance les réelles motivations de son initiative.
La question de fond soulevée dans cet ouvrage, c'est la question du témoignage. C'est-à-dire comment témoigner de sa foi au Christ aujourd'hui en Afrique de façon à se rendre crédible et engagé pour le renouvellement de notre monde. Et en faisant une analyse de la vie de nos églises d'Afrique, je peux constater que la conversion effective au Christ et à l'Évangile laisse à désirer.
Guy Dosuyovo, Cotonou pour Radio Vatican.
L'actualité sociopolitique à présent. Un influent homme d'affaires camerounais, Jean-Pierre Amungo Belenga, réputé proche de plusieurs ministres et hauts responsables de l'État, a été arrêté lundi à Yaoundé, soupçonné d'être impliqué dans le meurtre de Martinez Zogo, un journaliste enlevé récemment puis tué après avoir été torturé. Martinez Zogo était le directeur général de la radio privée Amplitude FM et animateur vedette d'une émission quotidienne Embouteillage dans laquelle il dénonçait régulièrement l'affairisme et la corruption au Cameroun. L'Éthiopie organisait lundi un référendum pour les habitants de plusieurs zones du sud du pays appelés à se prononcer sur la création d'un 12e État régional, le 3e scrutin de ce type en 4 ans. Les résultats sont attendus pour le 15 février prochain. Le directeur de la division des droits de l'homme de la mission des Nations Unies au Mali, MINUSMA, a été déclaré persona non grata et devra quitter le territoire national dans un délai de 48 heures, a indiqué dimanche les autorités maliennes. Cette décision annoncée par un communiqué intervient après un discours violemment critiqué par les autorités maliennes prononcé par une défenseure des droits humains malienne qui a dénoncé il y a 10 jours à l'ONU la situation sécuritaire du pays et l'implication, selon elle, des nouveaux alliés russes de l'armée nationale dans de graves violations. Construire des partenariats avec les hommes et les garçons pour transformer les normes sociales et de genre afin de mettre un terme aux mutilations génitales féminines, tel est le thème retenu cette année à l'occasion de la célébration lundi 6 février de la Journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines. Selon l'OMS, plus de 200 millions de jeunes filles et femmes ont été victimes de mutilations génitales. En Guinée, près de 97% des femmes ont subi l'excision. Michelle Sona Kunduno, présidente du Centre Femmes, Citoyenneté et Paix, se prononce sur la situation actuelle dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest.
La pratique de l'excision est une pratique qui a son fondement dans la religion. Mais c'est des préjugés, ce ne sont pas vrais parce qu'il y a eu un démenti. Mais la deuxième chose, c'est aussi une pratique ancestrale qui s'est faite de mère en fille. Il y a tout un mécanisme socio-institutionnel qui est là, qui est donc un peu le club des exciseuses, qui est une pratique qui se fait de génération en génération. Mais encore parce que ces exciseuses ne sont pas seulement que des exciseuses, elles ont d'autres pouvoirs qui leur sont conférés par leurs parents, par leur mère, et qu'elles aussi, elles continuent à perpétuer. C'est-à-dire, elles deviennent comme des conseillères secrètes des communautés en tant qu'exciseuses. Elles ont un pouvoir dans la communauté, mais aussi, c'est une source de revenus. Nous sommes dans un pays où les citoyens, les citoyennes peinent encore à avoir une vie décente. Donc, l'excision devient une source de revenus pour bon nombre de ces mères de famille qui pratiquent cela dans les villages. Donc, lutter contre l'excision, c'est aussi repenser comment trouver d'autres sources de revenus pour ces femmes pour qu'elles puissent arrêter.
Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a des avancées dans la lutte contre les mutilations génitales féminines en Guinée?
Les femmes de Guinée continuent de croupir sous le poids des contraintes socioculturelles qui freinent encore le déconstruit face à la pratique des mutilations génitales féminines. La conscientisation est là, mais il manque encore de stratégies efficaces, pérennes, pour pouvoir faire en sorte que cette pratique soit vraiment installée dans les communautés. Par exemple, nous avons la difficulté à faire appliquer la loi. Il y a eu plus d'un arsenal de textes juridiques condamnant les mutilations génitales féminines, mais malgré l'existence de ces textes juridiques, la pratique est encore très courante. Au niveau des communautés rurales, les femmes exciseuses sont conscientes du fait que cette pratique est ignoble, mais la stratégie pour mettre fin à cette pratique, elle persiste. C'est pour cela que je pense que le thème de cette année est un thème de grande pertinence, de se dire pourquoi pas essayer la lutte avec les hommes pour voir qu'est-ce qui pourrait être fait.
Et comment, selon vous, cette lutte pourrait être faite avec les hommes?
Aujourd'hui, il y a beaucoup de campagnes. La campagne Le He For She, c'est de faire une campagne He For She dans le domaine spécifique des mutilations génitales féminines. Nous avons aujourd'hui l'approche de la masculinité positive, qui est aussi une approche impliquant et faisant intervenir suffisamment les hommes pour pouvoir repenser les problèmes qui touchent les questions de femmes. Et donc, à ce niveau-ci, le partenariat et l'alliance avec les hommes permettraient de ressortir beaucoup de préjugés, parce que la plupart du temps, certains préjugés, on pense que c'est soutenu par les hommes. Par exemple, pour le cas spécifique des mutilations génitales féminines, les motifs, certaines disent que ça part des livres saints, par exemple du Coran. Donc, mais lorsqu'on travaille avec les imams, on se rend compte qu'il y a beaucoup de démentis par rapport à cette position. Donc, si c'est le partenariat avec des religieux par rapport à cette partie-ci du démenti, je pense que ça serait un acquis et un déconstruit au niveau des communautés, mais aussi au niveau des leaders communautaires. Si au niveau des communautés, ces leaders sont sensibilisés, ces autorités préfectorales et communautaires sont sensibilisées par rapport à cette pratique, sont conscientisées par rapport aux conséquences juridiques il pourrait aussi s'impliquer pour pouvoir veiller à la lutte contre cette pratique au niveau des communautés. Mais il faut désormais associer chaque acteur masculin selon ses responsabilités.
Michelle Sonakunduno, présidente du Centre Femmes Citoyenneté et Paix, interrogée par Myriam Sanduno.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Amis auditeurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. À très bientôt.